VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
17h à Ouagadougou, 18h à Brazzaville. Bienvenue à notre journal. On commence par l'actualité ici aux États-Unis. Les deux candidats présumés à l'élection présidentielle de novembre ont annulé leurs meetings électoraux prévus aujourd'hui. Après la tragédie d'hier soir à Dallas, au Texas, où 5 policiers ont été tués et 7 autres, ainsi que 2 civils blessés durant des manifestations antiracistes suite à la mort de 2 Noirs tués par la police cette semaine. La démocrate Hillary Clinton devait se rendre en Pennsylvanie avec le vice-président Joe Biden et le milliardaire républicain Donald Trump à Miami, en Floride. À Dallas, c'est un tireur isolé, maintenant identifié comme un certain Micah Xavier Johnson, qui a ouvert le feu sur les policiers. Ce sniper, réfugié sur un bâtiment, a été finalement abattu par la police aujourd'hui à l'aube à l'aide d'un robot télécommandé porteur d'une bombe. 3 personnes sont encore en garde à vue. Selon la police, avant de mourir, le sniper a dit en vouloir aux Blancs et souhaiter les tuer, en particulier des policiers. Il a affirmé être en colère à cause de la mort des 2 Noirs tués par la police cette semaine. À Varsovie, en Pologne, le président américain Barack Obama a dénoncé des attaques haineuses, calculées et méprisables. Pour le point sur la situation en ce moment à Dallas, écoutons tout d'abord Johnny Tiburce Twaboy, un centrafricain habitant la grande métropole du Texas.
Tout est encore tendu au niveau du centre-ville de Dallas où les actions policières ont été menées. Les snipers, un a été tué, le centre-ville est totalement quadrillé. Depuis les crimes qui ont eu lieu dans la Louisiane et aussi dans le Minnesota, les réactions qui a suscité les organisations de ces manifestations dans beaucoup de grandes villes américaines. Dans la ville de New York et effectivement ici à Dallas, la réaction des Noirs était vive vers la fin de l'après-midi. La communauté noire vivant pour la plupart dans le sud de Dallas, ils se sont avancés vers le centre-ville pour commencer. Alors c'est là que ces snipers, disons ces tireurs d'élite, ont ouvert le feu sur la police.
Johnny Tiburce Twaboy, un centrafricain résident à Dallas, au Texas. Comment réagir quand on entre en contact avec la police américaine dans une situation potentiellement de conflit? John Lindon a posé la question à Mark Elias, ancien chef de la police de North Miami, en Floride. On l'écoute.
C'est difficile pour moi de dire comment que je me sens lorsqu'un policier tire ou bien tue un noir, parce que on doit regarder globalement. On a eu des actions des policiers contre non seulement les Noirs, les Blancs, les Espagnols et tout. Mais récemment, c'est vrai, on a eu beaucoup d'incidents avec les Noirs. Étant un Noir, un Haïtien, oui, ça me fait du mal. Mais étant un policier, je ne peux pas regarder ça au point de vue préjugé. Parce qu'on a des incidents non seulement avec les Noirs, mais avec les Blancs, les Espagnols et tout. Ça m'est arrivé hier soir. Mon fils, après avoir regardé ça, il est gradué du collège et tout, m'a dit, mais papa, mais qu'est-ce qui se passe? Quand tu étais chef de la police pendant les 4 ans, notre mamie, ces choses ne se passent pas. Qu'est-ce qui se passe dans cette société? Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Parce que l'enfant ou le jeune qui conduit est craintif. Parce que moi, j'ai dû parler avec mon fils hier soir de ça. Ce que je lui ai dit, c'est très simple. Un policier t'arrête et il te dit, donne-moi votre licence et tout. Sois calme. Ne commence pas à parler fort au policier parce qu'il fait son travail. Mets tes deux mains sur le volant. Dis-lui, si par exemple il a un arme à feu dans la voiture, il a sa licence, laisse les mains sur le volant. Dis-lui, écoute, j'ai un arme à feu dans la voiture, j'ai ma licence, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Ça, c'est très important. Lorsque la police nous demande de quelque chose, comment dire en anglais, comply.
On doit obtempérer.
Exact.
Mark Elias, ancien chef de la police de North Miami, en Floride. Pour plus de détails sur ce dossier, suivez l'Amérique et vous de ce vendredi, une édition spéciale avec John Lindon. C'est bien sûr sur VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Au Nigeria, 6 fidèles tués aujourd'hui dans un attentat suicide contre une mosquée à Damboa, dans le nord-est du pays. Une attaque imputée par l'armée nigériane au groupe islamiste Boko Haram. Selon le colonel Sani Ousmane, porte-parole de l'armée, un premier attentat visant la grande mosquée de la ville a été déjoué et un suspect s'est fait exploser près du bâtiment. Mais un second kamikaze a réussi à pénétrer dans une mosquée plus petite où il a déclenché sa bombe, se tuant lui-même ainsi que 6 fidèles et blessant une autre personne. Toujours au Nigeria, le groupe des Vengeurs du Delta du Niger a revendiqué le sabotage d'un oléoduc d'une filiale de la société pétrolière italienne Eni par un commando d'hommes armés arrivé en hors-bord. Au Mali, réaménagement technique du gouvernement, la taille de l'équipe gouvernementale passe de 32 à 34 membres et les représentants des groupes armés font leur entrée dans la nouvelle équipe qui est toujours dirigée par le Premier ministre Modibo Keïta. Politique en RDC, Thomas Perriello, l'émissaire spécial des États-Unis pour la région des Grands Lacs, a rejeté en bloc les critiques émises par le porte-parole du gouvernement congolais à l'égard de ses partenaires occidentaux. Pour M. Perriello, Washington ne soutient pas un candidat ou un parti, mais simplement le droit du peuple congolais à continuer de jouir d'une stabilité constitutionnelle. Et toujours concernant la politique en RDC, l'ONU avertit que sans un sérieux dialogue politique nationale, les tensions politiques actuelles dans le pays pourraient dégénérer en une crise sévère, voire même violente. En Centrafrique, plus de 6 000 personnes ont fui les violences dans l'ouest du pays depuis la mi-juin pour se réfugier au Tchad et au Cameroun. L'exode a commencé le 12 juin après des heurts entre des éleveurs et des agriculteurs près de la ville de Ngaoundaï. Angola maintenant, le président angolais José Eduardo dos Santos est l'unique candidat à la présidence du MPLA. C'est ce qu'a décidé le comité central du parti au pouvoir. Une nouvelle confirmée par les médias d'État angolais, les précisions de Michel Joseph.
Cette annonce met fin aux spéculations selon lesquelles le chef de l'État angolais pourrait laisser cette place à quelqu'un d'autre. Au pouvoir depuis 1979, le président dos Santos avait fait part en mars dernier de son intention de quitter le pouvoir en 2018 sans fournir de raison. Il n'avait rien dit non plus concernant son éventuel successeur. Le congrès du MPLA, qui élira le chef du parti, se tiendra au mois d'août, suivi en fin 2017 d'élections générales. Le leader du parti, vainqueur de ces élections, deviendra le président de la République. Principal producteur africain de pétrole, l'Angola a été sérieusement affecté par la chute mondiale des cours de l'or noir, ce qui s'est traduit par une pression accrue sur le kwanza, sa monnaie nationale, avec une inflation galopante. Après avoir sollicité l'aide du Fonds monétaire international, les autorités angolaises ont indiqué la semaine dernière qu'elles mettaient fin au pourparlers avec le fonds. Certains analystes craignent maintenant une récession ainsi qu'une crise de la dette en Angola.
Au Burundi, Human Rights Watch dénonce la torture des opposants par les services de renseignement. L'ONG de défense des droits humains basée à New York parle aussi du comportement des miliciens tortionnaires proches du pouvoir qui procèdent à des arrestations illégales. Écoutons les précisions de la chercheuse principale de Human Rights Watch, Karina Tersakian.
Les jeunes du parti au pouvoir, ceux qu'on appelle les Imbonerakure, qui sont des membres de la Ligue officielle des jeunes du parti au pouvoir, travaillent étroitement avec les services de renseignement et avec la police pour intimider, torturer et commettre d'autres exactions envers des personnes soupçonnées d'être des opposants. Les Imbonerakure, eux aussi, se sont rendus responsables de graves exactions. Les Nations Unies ont compté 651 cas de torture entre avril 2015 et avril 2016, mais nous pensons que le chiffre réel serait bien supérieur.
Karina Tersakian, chercheuse principale de Human Rights Watch. Et puis le Soudan du Sud marque demain le 5e anniversaire de son indépendance. 5 soldats de l'armée loyale au président Salva Kiir ont été tués hier soir dans un accrochage à Djouba, la capitale, avec les troupes de l'ex-rébellion. Plus de détails avec Arzuma Compaoré.
Les affrontements ont continué aujourd'hui à Djouba. Hier, 5 soldats de l'armée loyale au président Salva Kiir ont été tués dans des combats contre les éléments de l'ex-rébellion du vice-président Riek Machar. Le plus jeune pays du monde marquera demain samedi son 5e anniversaire. Le gouvernement a décidé qu'il n'y aurait pas de célébration cette année. La guerre civile déclenchée en 2013 a plongé le pays dans une crise grave. L'accord de paix, signé en août 2015, ne tient qu'à un fil. À la situation tendue s'ajoute une économie en ruine. Environ 2 millions de personnes ont dû fuir leur foyer et plus d'un tiers de la population continue à dépendre d'une aide alimentaire d'urgence.
Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.